descendu sain et sauf dans la vallée. Les crues qui touchent le nord de la France se déplacent vers l'est des départements de l'Aisne et du Nord. Résultat, à Jeumont, une vingtaine d'habitations ont pris l'eau. Les pompiers ont construit des pontons pour permettre la circulation des piétons au-dessus du quartier inondé. Le Nord, l'Aisne et l'Oise sont toujours en vigilance orange.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Sandrine Mercier.
Allez, allez, allez !
Comment vivre la nature en hiver ? Nicolas Vanier a sa petite idée. Lui, l'explorateur écrivain du Grand Nord.
C'est bien.
Il sera là ce soir à partir de 21h avec ses raquettes et ses chiens de traîneau. Même pas froid.
France Inter. La différence.
15h04, passé de 30 secondes. On écoute la bassie, j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour Daniel Mermet et toute l'équipe. Là. Alors je demande solennellement que si je suis retenu en otage quelque part, surtout de ne pas intervenir, d'attendre que Sarkozy ne soit plus au pouvoir. Je préfère rester avec les ravisseurs pendant une année ou deux. C'est moins risqué à mon avis. Salut.
Bonsoir à vous tous. Merci pour la qualité de vos émissions. Je viens d'entendre Monsieur le Président de la République s'indigner devant l'assassinat de nos deux compatriotes en Afrique. Je trouve ça tout à fait normal de sa part. Sauf qu'il faudra un jour s'indigner de tout ce que l'Europe fait en Afrique. Il faut savoir que beaucoup de richesses qui arrivent en Europe nous parviennent d'Afrique. Or, l'Europe, et en particulier la France, soutient souvent des gouvernements corrompus pour notre petit confort, pour notre bien-être. Et je déplore certes la perte de la vie de nos deux compatriotes, mais le Niger, par exemple, est l'un des pays les plus riches au monde en matière de ressources. Et ce sont des ressources que le peuple n'en profite pas. Et donc, sans faire l'apologie du crime, je crois que la principale cause de ces actes-là passe par le respect de chaque pays, passe par l'entente des peuples et passe par le fait que ces peuples-là puissent profiter de leur richesse.
Oui, bonjour Daniel, bonne année, surtout la santé, longue vie à toi. Je voudrais parler de ce qui se passe en Tunisie, Algérie et d'autres pays où règne et gouverne des dictateurs requins, crocodiles, etc. Appel aux informaticiens, s'il vous plaît, créez des Wikileaks pour chaque pays, chaque département, jusqu'à la petite commune, même petit village. Ça sera le seul moyen d'avoir une police citoyenne pour lever les secrets de toutes ces crapules, les gros ventres qui pensent qu'à eux-mêmes, et laissent crever les peuples. En les dénonçant, s'il leur reste un petit brin d'honneur et de dignité, j'en doute bien sûr, ils cesseront peut-être de sucer le sang du pauvre peuple comme des vampires. Un franco-kabyle, je dis bien franco-kabyle, car je ne me reconnais pas dans leur algérianité. Allez, au revoir, à la prochaine.
Bonsoir, je viens d'écouter les nouvelles à France Inter à 8h. Je trouve qu'elles sont presque abjectes. J'ai passé 2 heures sur le net, sur le site 24/24.posterous.com, posterous.com. On y voit tout ce qui se passe en Tunisie. Non, ce n'est pas une bande de terroristes. Ce sont des gens dignes et courageux. C'est tout un peuple qui se révolte alors que tous ces jeunes et moins jeunes qui sont morts ce week-end ne soient pas morts pour rien. Ne les oublions pas. Merci.
Peuple du Nord et de l'île, venez fêter l'an 2011. Et ce soir, à 20h, au repère L'Imaginaire, venez partager notre galette des rois. À ce soir, venez nombreux. 5, place Louise de Bétigny.
Bonjour, c'est Ludovic du Nord-Alsace. Pour revenir sur cette série d'émissions, les petits séparés et les grands ensembles, Aussi bien chez cet élu d'une petite commune de 15 000 habitants qu'on entendait parler dans l'émission du 6, que Monsieur Copé dans l'émission du 7. Dans les deux discours, on n'entend absolument pas autre chose que le logement comme, disons, facteur d'intégration, de se sentir mieux, de mettre de l'ordre, effectivement, de lutter contre une délinquance qu'on n'analyse pas plus avant, au contraire de ce que faisait le sociologue M. Jean-Pierre Garnier dans l'émission du 6, sans aucunement revenir sur d'autres facteurs tels que le chômage, effectivement, comme Daniel Mermet l'a souligné à plusieurs reprises, et puis d'autres facteurs comme effectivement l'éducation, le système scolaire, etc. D'ailleurs, c'est un peu dommage que Charlotte Péri n'ait pas taquiné un peu plus M. Copé. Merci, en tout cas, pour cette série d'émissions qui était très révélatrice.
Merci, on dira à Charlotte qu'elle doit taquiner un peu plus M. Copé la prochaine fois qu'elle le rencontre. Merci, en tout cas, pour tous ces messages. Aujourd'hui, vous vous souvenez d'un reportage de Julien Brigaud sur les combats de coqs dans le Nord, ou d'un reportage d'Antoine Chao sur la chasse à la palombe dans les Landes. Vous vous souvenez, à chaque fois, on a eu des messages d'auditeurs ulcérés, indignés, offusqués, que l'on présente ainsi des bêtes en train de se battre pour les combats de coqs, ou des palombes chassées par des hommes juchés dans des cabanes, dans les arbres, etc. Oui, c'est pas faux, on peut tout à fait s'indigner. Hein, c'est une... Mais alors, que dire de l'élevage des poulets ? L'élevage des poulets, sur un mètre carré, on met une trentaine de poulets, et ces poulets, en 42 jours, doivent atteindre 2 kilos. 2 kilos, oui, c'est quand même assez fort. On a aussi des procédés pour qu'il n'y ait pas de plumes ou très peu de plumes pour pouvoir les déplumer plus vite. Mais alors, comment faire pour qu'un petit poussin comme ça fasse 2 kilos en l'espace de 42 jours ? Eh bien, on le gave de méthionine, c'est un produit qui permet de faire gonfler le poulet plus vite. Et alors la méthionine, ou la méthionine, je ne sais pas si c'est du masculin ou féminin, c'est une à base d'une molécule C5, le chloracétal C5, qui permet de retenir les déjections du poulet. Vous voyez, on empêche le poulet de faire son petit caca et ça reste à l'intérieur du poulet. Et le poulet grossit, voilà. Donc ceux qui s'indignent à juste titre de la maltraitance sur les animaux ignorent peut-être la façon dont les poulets arrivent dans leur assiette. Ces propos ragoûtants ouvrent le reportage d'aujourd'hui d'Inès Loireau sur ce produit, le C5, qui n'a pas pour seul effet de faire gonfler les poulets. Ça aurait tendance à engendrer le cancer du rein. Tendance, dis-je, car très longtemps on a nié cette éventualité, cette hypothèse. Et puis après, on a dit que ça n'était pas évident. Et puis maintenant, on l'a reconnu. On a reconnu qu'effectivement, ce produit engendrait le cancer du rein. Et ça a été reconnu, et c'est le cas chez nombre de salariés de cette entreprise Adisseo, dans laquelle nous nous rendons aujourd'hui. C'est un retour chez Adisseo. Et en même temps, vous allez voir, il y a une actualité, parce que les choses se sont déroulées sur un temps tellement long qu'il a fallu attendre ces jours derniers pour qu'enfin le lien entre ce produit et les cancers des reins subis par un certain nombre de salariés soit enfin reconnu. Une façon d'évoquer les cancers professionnels et les maladies au travail qui ont changé, on va le voir, avec le temps. Auparavant, aucun autre message pour l'instant.
Bonjour, c'est Corinne de Grenoble. L'autre jour, j'ai entendu Roland Dumas répondre à une journaliste qui lui demandait s'il était employé par Laurent Gbagbo. Il a répondu « Employé, c'est pour les balayeurs, moi je suis avocat ». Que faut-il comprendre ? Que balayeur, ce n'est pas respectable, ou que c'est employé qui n'est pas respectable ? Est-ce qu'il sait qu'il y a d'autres emplois que balayeur ? Est-ce qu'il veut dire que le mot d'employé est une insulte? Je ne sais pas. Ensuite, il a élucidé le montant de ses honoraires et dit qu'il ne facturerait que ses frais, peut-être. J'espère que dans ses frais, il y aura le salaire du balayeur qui nettoie devant sa porte.
Il est 8h du matin à Commentry et le petit marché se dresse sur la place de la mairie. Bonjour monsieur. Je cherche l'usine à Diceo de Commentry.
Les deux plus beaux là.
C'est eux qu'il faut
aller voir.
Vous cherchez l'usine à Diceo.
Vous connaissez?
Hein? Non.
L'usine à Diceo?
Ah si, oui, alors pas heureusement. Vous rigolez.
C'est la plus grande usine de Commentry. C'est la plus grande usine de Commentry. Je sais qu'ils font des produits chimiques, mais quoi? Ça, je sais pas.
Vous savez pas ce qu'ils font?
C'est le truc pour... c'est le truc animal, mais quoi exactement? Ils font de la vitamine, ils font de la...
Fabriquer bien du roi-co aussi, des trucs comme ça, non?
Ça a toujours été le truc animal ici, je crois.
Animal?
Ah oui.
Et ça a quelle réputation à Diceo?
D'employé du monde, toujours, c'est déjà pas mal.
D'employé du monde?
Ah.
Et vous avez entendu parler de l'histoire des cancers du rein à Diceo?
Ah, ok. Ah, c'est pour ça. Au petit, il n'en a pas entendu parler des problèmes de santé. D'abord, ça paru ce journal, ça passe à la télé. Mais à part ça, moi, c'est tout ce que je sais. Si, il y a un monsieur que je connais qui en est mort, là.
Ah, ben, il y a le cancer du rein, là. J'ai même des amis qui l'ont, là. Ça, c'est notre problème, c'est les risques du métier, hein. Un policier, il se fait tuer, maintenant, on en fait tout un cas, c'est son métier, hein. Quand il travaille à l'usine, il sait ce qu'il risque, hein. Nous, au marché, l'hiver, eh ben, ça fait froid, ben, on a froid, puis c'est les risques du métier.
Mais alors tout droit.
On va aller, moi, je vais...
Ah oui, oui. Qu'est-ce que c'est plutôt? C'est le champ de poire, ou la première route à droite. Quand vous êtes sur le champ de poire, vous allez voir à Diceo, c'est en face. Il n'y a pas de problème.
Merci.
Allez, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Inès Léraud. Les risques du métier, un retour chez Adiceo.
Flight number 2, arriving from Diceo.
Là, je suis en route vers Adiceo, la plus grosse entreprise de la région, qui produit des compléments alimentaires, en fait des vitamines, pour les porcs, les poulets et les vaches élevées de manière industrielle. Et elle vend ses vitamines dans le monde entier. Adiceo est un des leaders mondiaux pour la nutrition animale. L'entreprise fait un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard par an. Si j'y vais, c'est que là j'ai rendez-vous avec des ouvriers et l'ancien médecin du travail d'Adiceo, qui est parti à la retraite, au local syndical des salariés. Parce que depuis que l'entreprise a intégré à sa chaîne de production, en 1981, une molécule qui s'appelle le C5, il y a 35 cas de cancer du rein qui se sont déclarés chez les ouvriers. 35 malades. Voilà. Et c'est ça le début de l'histoire.
Quand j'étais petit, la lutte des classes, on en parlait et on la vivait et c'était pas compliqué. La lutte des classes, c'est une corde, une grosse corde, et à un bout de cette corde, vous avez le capital, et à l'autre bout de la corde, vous avez le travail. Et chacun tire de son côté. Tantôt, c'est le capital qui gagne, et alors il se met à grossir comme un gros bœuf sur son tas d'or, en fumant son cigare. Tantôt, c'est le travail qui l'emporte, et là, c'est les congés payés, l'accordéon, la semaine de 40 heures, de 35 heures, c'est la sécu, les retraites, le logement social, bref, les acquis, les conquis sociaux. C'est ça la lutte des classes. L'ouvrier contre le patron, le prolétaire contre le rentier, et voilà, ou le contraire, le rentier contre le prolétaire, le patron contre l'ouvrier.
C'est comme ça, c'était comme ça. C'était comme ça tant que le patron avait besoin de l'ouvrier. Tant que le riche avait besoin du pauvre d'ici. Mais désormais, le riche, pour s'enrichir, a toujours besoin du pauvre, mais il préfère le pauvre chinois ou la pauvre femme du Bangladesh. On appelle ça la délocalisation, on appelle ça aussi la déréglementation. Et chez nous, maintenant, le monde du travail, le monde de l'ouvrier, eh bien, il est en proie, il est face à un chantage permanent, à une arme permanente pointée sur lui, c'est le chômage. Si tu marches pas droit, on te fout dehors, et même si tu marches droit. Voilà pourquoi nous sommes si peu informés ou si mal informés sur quelque chose d'assez extraordinaire qui est les cancers professionnels. 10% des cancers, soit 20 000 cancers par an, sont des cancers professionnels, selon l'Association pour la recherche sur le cancer. Et seulement 1500 sont reconnus par l'assurance maladie. En France, 2 400 000 salariés sont quotidiennement exposés à des substances cancérigènes sur le lieu de travail. Et ces cancers professionnels peuvent apparaître 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après l'exposition du salarié ou de l'ouvrier à toute une série de substances qui sont méconnues. Voilà pourquoi, avec Inès, on retourne chez Adiceo, dans cette entreprise qui s'est fait remarquer à un moment, mais ça a été vite oublié, même si quand même ça a laissé une certaine trace, puisque cette entreprise, au terme d'un long trajet, effort, procédure, attente, renvoi, négligence, etc., a fini par obtenir, les salariés ont fini par obtenir gain de cause relativement. En tous les cas, le 20 avril 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, dans l'Allier, puisque cette entreprise est implantée dans l'Allier, a condamné l'entreprise pour faute inexcusable envers ses salariés. On va en savoir plus, revenir là-dessus et voir surtout si, depuis, les choses ont changé. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, les risques du métier.
Dans la steppe au phosphore, dans les champs de lithium, dans les fleuves au mercure, sous un soleil de plomb, sur un nuage de soufre, gorgé de plutonium, dans le vent désertique, chauffé par les torchères, des dérigues en furie. Du haut d'un mirador, j'aperçois les barbares envahir l'horizon. C'est pas les petits taggeurs, les enfants sans futur, les casseurs de banlieue. C'est pas les affamés du charité business, pas non plus les chômeurs du carmon triomphant qu'un gros porc arrogant, tirant sur son cigare, traite de fainéant. Lâchez femmes et enfants, planquez tous vos dollars, descendez aux abris, arrimez les blindages, condamnez les entrées, évitez les sorties. Préparez la survie, rationnez l'oxygène, comptez-vous, faites l'appel. C'est les nouveaux barbares qui cachent l'horizon comme un vol de sauterelles.
On n'a pas eu de café au fait, les gars.
Je suis là, on n'a
pas eu de café.
Vous êtes bien là?
chaud. Hein.
Et on se boirait peut-être un petit café, les gars, non? Est-ce qu'il veut boire un café?
On va faire de la musique.
Je vais en chercher en haut.
On a la potion magique du vent.
Pour se réchauffer quand même. Hein,
voilà, voilà, on est arrivé avec Inès à Commenterie. Et on va tout droit au local syndical d'Adiceo avec des anciens. Et puis avec Gérard Barra, qui est l'ancien médecin du travail, qui a joué un rôle important dans cette affaire. Je parle à l'imparfait parce qu'il est à la retraite maintenant. Ça n'empêche pas d'être présent ce jour-là dans cette réunion pour nous raconter ce qui s'est passé et les problèmes liés à la fameuse molécule C5. Il faut rappeler que Adiceo est une entreprise importante qui emploie 1200 personnes dans 140 pays, qui dispose de 3 laboratoires de recherche et 4 unités de production, un peu partout en France, mais aussi en Espagne et aussi aux USA. En 2007, le chiffre d'affaires du groupe atteignait 630 millions d'euros, en hausse de 14%, mais en 2009, le groupe réalisait un chiffre d'affaires voisin d'1 milliard d'euros. Et depuis janvier 2006, Adiceo est l'une des principales filiales de China National Blue Star, un acteur majeur de l'industrie chimique chinoise, avec en Chine près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec l'activité que je décrivais en commençant et qui a quelques incidences sur la santé des salariés.
Vous êtes tous là des anciens de Adiceo, en fait, de l'entreprise. Et ça fait combien de temps que vous n'étiez pas retrouvés tous ?
Oh ben on se voit assez souvent. Hein. On a des permanences le premier et dernier vendredi du mois. Donc on reçoit les copains, les victimes.
Et parmi vous, qui est-ce qui est tombé malade au sein d'Adiceo ? Il y a vous, Madame Chapelier ? Oui.
Mon problème se situe en 2000, avec une tumeur de 7 cm par 5, par 4, c'est-à-dire un beau truc, qui tuait carrément le rein, donc opéré. Bon.
On vous a enlevé un rein ?
Oui, un rein et la surrénale.
Vous aviez quel âge quand vous avez appris que vous aviez cette tumeur ?
54. Bon, j'étais dans les premières, bon, je me suis pas... C'était mon problème, mais je ne savais pas qu'il y en avait d'autres. Parce que les premiers cas, c'était des retraités. Mais après, ça s'est dit. Et d'ailleurs, les 3 chirurgiens qui opéraient les gens d'Adiceo ont eux-mêmes donné l'alerte en disant « Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens d'Adiceo qui viennent pour des problèmes de reins ?»
Et vous pouvez nous décrire votre travail ?
Donc, c'était au laboratoire. Et moi, j'ai travaillé sur la vitamine A, pas que sur le C5, mais sur le C5 également. Avant, moi, quand j'ai travaillé dessus, c'était...
Sans gants. Vous travailliez sans gants à l'époque ?
Sans gants, sans hôte, sans rien.
Et vous, Madame Neveu ?
Ben moi, je travaillais au labo de recherche. J'ai fait la vaisselle pendant pas mal d'années.
Vous faisiez la vaisselle des tubes qui servent aux expérimentations ?
Et après, ben, j'ai fini, j'étais à la préparation des échantillons en bas. Un truc banal que je vais vous dire, hein. Tous les matins, je saignais du nez. Et un jour, M. Dola, un ingénieur, ben, il me dit, qu'est-ce qui vous arrive, Mme Neveu ? Oh, j'en ai marre, j'ai tous les matins, je saigne du lait. Mais il me dit, vous broyez sans masque ? Ben, je dis, oui. Mais il me dit, vous savez pas, il faut mettre un masque ? Moi, je savais pas. Et j'ai travaillé combien de temps ? Peut-être 3 ans, j'y suis restée. Mais je n'ai pas mis le masque tout de suite. C'était pour vous dire que la sécurité, il n'y en avait pas bien. Hein.
Vous, Alain Nicolas.
Et on pataugeait dedans. Hein.
C'est comment le C5, en fait ?
C'est un liquide, hein, qui brûle. Hein. Si vous n'avez pas de gants, ça brûle. Puis ça pique le nez, ça a une odeur bien, bien particulière. Donc c'est irrespirable. Hein. Ça, c'est quelque chose qui s'oublie pas, le C5. Hein. Mais bon, mais au départ, on nous disait tout le temps que ça risque rien.
Vous vous plaignez un peu de ces irritations,
ah ben
de cette
oui,
odeur.
Et puis bon, on commençait déjà à avoir les explications aussi là du docteur. Hein, il nous expliquait bon, faut vous protéger tout ça, mais bon. Après bon, là, quand un atelier démarre, on sait aussi qu'il faut courir, hein, puisque bon, c'est une question de rentabilité. Hein, il faut arrêter le moins possible, mettre tout au point tout de suite, quoi.
Au début, elle réagissait comment la direction quand vous lui disiez que ce produit, ça vous irritait, ça brûlait ?
Ah ben, vous savez, une direction, les salariés qu'ils emploient, c'est rien. Hein. Vous pouviez bien dire ce que vous voulez. Hein.
Vous allez faire fermer l'usine.
Vous allez faire fermer l'usine, oui.
C'était une sorte de chantage à l'emploi.
Chantage, oui.
C'est l'habitude de dire, ceux qui font ce genre de réflexion, eh ben, ce n'est pas leur peau. Hein. S'ils étaient concernés directement par la contamination, ils réfléchiraient différemment. Hein.
Christian Micot.
Il ne faut pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même 10 morts. Hein. 10 morts de cancer du rein.
10 morts et combien de malades?
Malades, on est à 36 cas.
Comme 9 de ses collègues, André Roux souffre d'une tumeur rare.
TF1.
Un cancer du rein dont il a subi récemment une ablation.
19 février 2003.
Pendant 9 ans, il a travaillé à la maintenance de l'atelier de fabrication de Vitamina chez Adiceo. Au milieu d'odeurs entêtantes, l'usine Adiceo, classée Céveso 2, fabrique des vitamines de synthèse utilisées comme additifs dans la nourriture animale. Les 10 cas de cancer ont été recensés dans la même unité où une nouvelle molécule est employée depuis 82 dans la composition de la vitamina, le chloracétol, appelé C5. La direction réfute une éventuelle toxicité du produit.
Gérard Barra. La molécule C5 est intégrée dans la chaîne de production en 1981. Mmh. Dès 1984, vous soupçonnez qu'elle puisse agir sur la santé. Vous demandez, en tant que médecin du travail, vous demandez des études dont vous ne connaîtrez les résultats qu'en 1990.
Oui.
Quand on a obtenu enfin, en 89-90, les tests toxicologiques, eh bien, c'était une molécule extrêmement mutagène et clastogène, c'est-à-dire qui cassait les chromosomes. Et je pense que, malheureusement, en 94-95, quand sont apparus les trois premiers cas de cancer du rein qui concernaient des salariés qui avaient travaillé ou qui travaillaient sur le C5, eh bien, ma conviction était déjà presque faite.
Votre conviction de médecin du travail
était presque faite. Et malheureusement, elle s'est confirmée après, parce que quand je suis parti en 97, 7 cancers du rein étaient déjà diagnostiqués et déclarés en maladie professionnelle, mais qui n'avaient pas été reconnus à l'époque. Une petite aparté économique, si vous voulez. Quand en 81, cette nouvelle synthèse de la vitamine A a été mise en place dans l'entreprise, la productivité du travail a été multipliée par 4.
C'est-à-dire quand on a intégré le C5 à la chaîne de production de la vitamine A,
on a multiplié la productivité du travail par 4.
Pourquoi?
Alors, on a multiplié par 2 la capacité de production de l'atelier et on a divisé par 2 le nombre de salariés qui travaillaient dans cet atelier. Donc la productivité du travail a été multipliée par 4. Voilà. Mais c'est extrêmement important pour comprendre quels sont les enjeux qui sont maintenant là et qui font obstacle. Parce que si on revient à l'ancienne synthèse, on aura certainement des rendements diminués. Donc une productivité diminuée et donc des bénéfices pour les actionnaires diminués. Je m'excuse de dire comme ça, mais je crois que les enjeux sont là.
On s'excuse de dire comme ça. On s'excuse de dire comme ça, de risquer de froisser la rapacité des actionnaires qui sont quand même, qui ont une lourde responsabilité dans toutes ces histoires, du médiator à l'amiante ou de l'amiante au médiator. C'est toujours ces impératifs de productivité, de rentabilité et qui règnent sur ces procédés industriel, économique, sans aucune espèce de partage. Il faut des morts, il faut des malades, il faut de très longs combats pour arriver à se défendre et à faire émerger un peu d'informations et un peu de vérité. Monsieur Barra, Gérard Barra, c'est l'ancien médecin du travail de cette entreprise. Il faut dire au passage que cette activité, la médecine du travail, est menacée de disparaître à l'occasion du plan de santé au travail de monsieur Eric Woerth, lorsqu'il était en activité. Eh bien, il a donné un projet de réforme de la médecine du travail et qui met à mal ce métier, enfin cette fonction instaurée en 1946. Et puis j'évoquais aussi le cancer professionnel de façon générale et les maladies professionnelles de façon générale. Voilà ce qu'en dit Gérard Barra.
Concernant les cancers professionnels, actuellement on évalue à 15 000 cas par an le nombre de cancers d'origine professionnelle. L'INVS, l'Institut National de Veille Sanitaire, en 2009, a évalué le nombre de cancers dus à l'amiante en France à 4000 morts, le nombre de décès par an. C'est-à-dire qu'en fait, l'amiante tue en France plus que la route. Eh oui.
Encore aujourd'hui.
Oui, l'amiante actuellement en France tue plus que la route. Quelle campagne de publicité, entre guillemets, de prévention fait-on si on la compare à la campagne de prévention des accidents routiers? C'est terrible. Et sur ces 4000 décès, 1200 seulement ont été reconnus en maladie professionnelle. 1200. Ça veut dire que le cancer professionnel est quasi une maladie invisible. À la fois invisible, bien sûr, pour les employeurs, mais ça, ça ne les gêne pas. Invisible pour les pouvoirs publics, ça les gêne peut-être, j'en sais rien. Mais même aussi invisible pour beaucoup d'organisations syndicales. Pendant longtemps, les organisations syndicales ont négligé aussi ce point. Je rappelle que jusqu'en 1997, le comité permanent amiante en France, qui était présidé par le lobby de l'amiante pour promouvoir l'utilisation raisonnée et en sécurité de l'amiante.
L'usage contrôlé de l'amiante.
L'usage contrôlé de l'amiante. Eh bien, la CGT siégeait dans ce comité. Donc, c'est pour dire que les choses ne sont pas aussi simples que ça quand on aborde les problèmes de santé au travail. Parce que, je me souviens très bien à ce moment-là, eh bien, la position des organisations syndicales, c'était aussi de dire « attention, il y a l'emploi ». Alors que du jour au lendemain, en 97, à partir du 1er janvier 97, quand l'amiante a été interdit, eh bien, Eternit a été capable de fabriquer des tuiles et des toits ondulés sans amiante.
Donc finalement, il n'y a pas eu beaucoup plus de chômage?
Non.
Il n'y en a pas eu plus.
Non, sauf que l'amiante, c'était un merveilleux produit, entre guillemets, parce que c'était un produit qui était peu cher, qui avait beaucoup de qualité, mais qui était et qui reste un cancérogène redoutable. Donc tout ça pour vous dire que les cancers professionnels, c'est une maladie invisible, socialement, politiquement, en France aujourd'hui.
Et qui coûte très cher à la caisse de sécurité sociale. Si sur 4000 cancers de l'amiante, seulement 1200 sont reconnus par la caisse des maladies professionnelles, ça veut dire que les autres cancers sont financés par la Sécu?
Oui. Oui, par le régime général, auquel on cotise tous. Alors que le régime spécifique maladie professionnelle, accident du travail, normalement, est seulement alimenté par les cotisations patronales. Mais effectivement, vous avez raison, quand c'est une maladie professionnelle qui n'est pas reconnue et qui est prise au titre du régime général, ben c'est nous tous qui payons.
Monsieur Garcia, vous êtes...
Je suis directeur de l'établissement Adiceo à Commentry.
Bon ben, je vous suis. C'est par là?
C'est par là. Donc voilà, vous avez les équipements, donc chaussures sécurité, casque, lunettes et veste pour commencer la visite.
Bah j'enfile tout ça.
Voilà, alors là, maintenant, on passe de l'autre côté, du côté de la direction d'Adiceo avec monsieur Didier Garcia. Et vous avez vu la visite que fait pour nous Inès Leroux. C'est-à-dire que nous suivons Inès Leroux, mais elle met un casque. Elle est... Le souci d'Adiceo, c'est la sécurité. On va voir que ce n'est pas seulement la sécurité, mais que c'est une entreprise morale et sociale également. Allons-y. Voilà.
On a tenu la rampe pour éviter de tomber. On tenait la rampe. La sécurité, ça commence par tenir la rampe dans les escaliers.
Didier Garcia, là on est tout en haut de l'entreprise. On a vu sur toute l'entreprise qui est une sorte d'amoncellement de tuyaux, des lignes de tuyaux. Il y en a sur
plusieurs centaines de kilomètres de tuyaux. Vous voyez que tout est confiné, on n'aperçoit aucun produit. Nous sommes soucieux de la sécurité. Je dirais, pour moi, il y a trois aspects dans la sécurité. Il y en a d'abord un qui est moral. Moral, parce que si effectivement on a un blessé grave,
Eh bien, quelque part, on ne peut pas être insensible à ça, quel que soit qu'on soit responsable ou non juridiquement. Le second aspect, c'est l'aspect social. Je dirais, hélas, on a eu des exemples, que ce soit en France ou à l'étranger, d'entreprises où il y a eu d'énormes problèmes de sécurité, des accidents graves, et ça s'est traduit par la fermeture de l'entreprise. Donc on a ce deuxième devoir qui est un devoir social, parce que ça crée de l'emploi, et nous avons quand même ici sur le site 480 emplois.
Si je vous comprends bien, sécurité, morale et sociale, c'est les trois mots d'Adiceo.
Je dirais, c'est effectivement les trois mots d'Adiceo, c'est ce que nous essayons de faire au jour le jour, au quotidien.
La reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur.
France 2.
C'est ce que viennent chercher 9 salariés de l'usine chimique Adiceo,
20 février 2006,
ayant appartenu auparavant à Rhône-Poulenc. Des employés dont le cancer du rein a été reconnu comme maladie professionnelle il y a 4 ans. La direction affirme aujourd'hui avoir fait le nécessaire pour protéger au mieux ses employés.
Nous avons toujours mis en œuvre les meilleures pratiques pour nous prémunir d'éventuels risques des produits chimiques depuis la création de l'atelier dans les années 82. C'est la position qu'a défendue notre avocat, c'est pour ça que nous réfutons la faute inexcusable de l'employeur.
À ce jour, 25 personnes ayant travaillé chez Adiceo ont contracté un cancer du rein. 9 en sont mortes. En France, plus d'un salarié sur 10 est exposé à des produits cancérogènes.
On est au milieu de la ferme qui est attelée à Adiceo. On contrôle les vaches et les coques dans la périphérie de Commentry.
Oui.
Donc entourée par des collines et des arbres. Didier Garcia, selon vous, si Adiceo a pris toutes les précautions pour protéger son personnel, pourquoi elle a été condamnée par le tribunal des affaires sociales en 2007 à une faute inexcusable ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, donc, il y a eu un certain nombre de cas de cancer du rein qui ont été détectés sur le site, et la suspicion s'est portée sur la molécule C5. Donc un certain nombre de personnes ont effectivement mené cette affaire devant le TAS et la société Adiceo effectivement a été condamnée pour faute inexcusable de l'employeur dans un certain nombre de cas. La position d'Adiceo n'a pas varié, c'est-à-dire que Adiceo à aucun moment ne s'est opposé sous quelque forme que ce soit au caractère professionnel de la maladie, ni à la faute inexcusable de l'employeur. Nous avons considéré que le fait de s'opposer ne faisait absolument pas avancer le problème, au contraire, permettait aux salariés d'être indemnisés.
Mais si le tribunal des affaires sociales a condamné Adiceo pour faute inexcusable, c'est parce que le tribunal des affaires sociales avait considéré qu'Adiceo n'avait pas écouté les alertes de son médecin du travail qui proposait des combinaisons dès les années 90 et n'avait pas pu fournir la preuve qu'elle avait fait des tests de toxicité sur sa molécule avant de l'intégrer dans sa chaîne de production et donc d'exposer ses salariés à cette molécule. Donc on ne peut pas dire quand même que pendant 20 ans, Adiceo a réuni tous ses efforts pour protéger ses salariés.
Écoutez, je ne peux que répéter ce que je viens de vous dire. Adiceo, à aucun moment, n'a fait appel de la décision, et ceci dans l'intérêt des salariés qui ont pu être indemnisés de façon plus conséquente que par rapport au simple fait de reconnaître une maladie professionnelle.
Et qui a payé les indemnisations des salariés ?
Nous avons respecté tout ce qui était du domaine légal, et quand il a fallu payer des rentes, nous avons payé les rentes qu'il fallait.
Alors, il y a votre directeur de la communication à côté de vous ?
Non, mais attendez, moi, je n'ai aucun problème.
Arrêtez de...
Pourquoi vous voulez que je coupe ?
Parce que vous faites vous-même les démonstrations, donc c'est plus des questions.
Vous maintenez que Adiceo a payé ses fautes inexcusables aux salariés ?
Je maintiens que Adiceo a rempli ses obligations vis-à-vis des salariés. Attendez, mais...
C'est votre technique, c'est de poser deux fois les mêmes questions.
Attendez,
vous connaissez beaucoup d'entreprises qui ne font pas appel ?
Ça me semble logique de ne pas faire appel quand on n'a pas à payer les indemnités.
Mais attendez, on a fait ce qu'il fallait pour que les salariés soient indemnisés.
Non, mais est-ce que c'est vous qui avez versé l'argent pour ces fautes inexcusables ?
Non, c'est pas Didier Garcia qui a versé l'argent.
Non, mais Adiceo. Est-ce que c'est Adiceo qui a versé l'argent pour les fautes inexcusables ?
Écoutez, je vois pas comment ça peut être autrement.
Donc vous ne savez pas ?
Je n'en sais rien.
Non, mais parce que vous me dites qu'Adiceo est une entreprise sociale et morale et qu'elle a tout fait pour indemniser ses salariés. Mais si c'est pas elle qui paye les indemnités, ça me paraît quand même un peu ni social ni moral.
Bon, oh là là, on va aider Didier Garcia. on va aider le patron Didier Garcia, et puis son directeur de la com, qui trouve que c'est les journalistes qui posent tout le temps les mêmes questions, ça va pas, surtout s'ils font des démonstrations. Si un journaliste a posé des questions, ça fait pas des démonstrations. Alors on va aider Didier Garcia, le patron actuel, qui est quand même très très fier de son entreprise, de cette entreprise dont il est jamais qu'un banal rouage. Une entreprise qui fait de la qualité, de la sécurité, de la croissance, du développement durable, de la compétence, de la performance, enfin, l'amélioration constante de l'excellence, etc., etc. Et puis, le moral et le social. La devise d'Adiceo, c'est « Nous améliorons la chaîne alimentaire en respectant l'animal ». L'homme et l'environnement. L'animal passe avant parce que, ben voilà, on fabrique des produits pour les animaux. Je vous ai expliqué au début de l'heure, c'était les poulets qu'il s'agissait de faire grossir. Alors, ben, on va aider donc, comme promis, Monsieur Garcia à en savoir un petit peu plus en nous tournant vers Jean-Paul Tessonnière, qui est avocat.
Alors, Jean-Paul Tessonnière, je suis avocat. Je suis avocat des victimes de l'amiante, avocat des vétérans exposés aux essais nucléaires au Sahara et en Polynésie, avocat des travailleurs polynésiens exposés à Mururoa.
Et vous êtes avocat des ouvriers qui ont contracté des cancers du rein à Adiceo.
Également. Oui, autant que je me souvienne, les premiers contacts ont eu lieu fin 2005, début 2006. Le résultat des intoxications ou des contaminations par le chloracétal C5 était extrêmement impressionnant. Le nombre de cancers du rein était considérable pour la population exposée. Et donc les procédures en faute inexcusable qui ont abouti favorablement ont permis au moins aux victimes d'être indemnisées dans des conditions décentes.
Donc voilà, les victimes ont gagné en faute inexcusable, elles ont été indemnisées. Mais alors, elles ont été indemnisées par qui ?
En fait, elles ont été indemnisées par la sécurité sociale. C'est-à-dire que le risque a été mutualisé. C'est là un paradoxe extrêmement choquant. La décision de reconnaissance de faute inexcusable, en même temps qu'elle déclare coupable de faute inexcusable la société Adiceo, elle considère que la décision est inopposable à la même société Adiceo, ce qui est un paradoxe absolu. Et donc le résultat de ce paradoxe, c'est que le risque est mutualisé, c'est-à-dire que Adiceo ne paie pas les conséquences des fautes graves, inexcusables, qu'elle a commises. Et c'est donc la branche accident du travail maladie professionnelle, branche de la sécurité sociale, qui supporte les conséquences des fautes commises par l'employeur.
Donc en fait, les industriels ou une industrie comme Adiceo a développé des stratégies juridiques assez fines pour trouver des vices de procédure dans un procès et que même si la faute inexcusable lui est reconnue, elle n'a pas à payer les indemnités.
Voilà, c'est un combat en quelque sorte d'arrière-garde qui est mené avec habileté d'une part, leurs avocats sont de bons avocats, et avec succès, puisque de ce côté-là, effectivement, ils ont perdu sur l'essentiel, qui était quand même la reconnaissance de la faute inexcusable et de l'indemnisation des victimes. Le progrès est tout de même considérable. Mais ils ont réussi à gagner sur ce deuxième terrain qui aboutit à les exonérer des conséquences des fautes graves qu'ils ont commises. Il est choquant, encore une fois, que la société s'en tire aussi bien, puisque elle n'est absolument pas pénalisée par ce qu'elle a fait. Elle n'est donc pas dissuadée de recommencer à l'occasion, et d'ailleurs elle continue, à ma connaissance, la synthèse de la vitamine A se fait toujours de la même façon alors que d'autres procédés seront possibles. Elle continue avec le C5 et donc elle continue en exposant les salariés à un risque peut-être diminué en raison de mesures de protection qui ont été mises en place depuis, mais qui demeure un procédé dangereux.
Pour André Roux, comme pour les 9 autres malades, seule la sécurité sociale est habilitée à reconnaître leur cancer comme maladie professionnelle.
France 5.
Or, pas de reconnaissance, pas d'indemnisation.
5 avril 2003.
Première victoire pour les victimes, le 10 mars dernier, médiatisation oblige, la sécurité sociale a réexaminé les dossiers. Les malades ont enfin été convoqués, tous ensemble.
Par rapport au fait qu'il vous ait fait attendre si longtemps, il y a eu un mot d'excuse et il y a eu...
Oh non, au contraire.
C'est pas parce qu'on dépose des dossiers aujourd'hui que demain, ça sera traité, quoi.
Vous y croyez pas encore tout à fait ?
Non, pas tout à fait.
Contre toute attente, 10 jours après le rendez-vous, la Sécurité sociale a reconnu les cancers comme maladies professionnelles. Après 8 ans de combat, les malades vont enfin pouvoir être indemnisés.
Là, on est sur un parking en contrebas de l'entreprise Adiceo. On voit au loin les cheminées s'élever. Et vous pouvez vous présenter ?
Oui, bien sûr. Alors, Jérôme Cornet, secrétaire du CHSCT.
CHSCT, c'est le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Tout à fait.
De l'entreprise.
Donc, moi, j'ai 35 ans.
Et vous ?
Jean-Luc Cagnot, secrétaire adjoint du CHSCT. Je suis salarié depuis 1995, embauché à la maintenance. Moi, j'ai 43 ans.
On est exposé à des produits CMR et il faut savoir que... Cancérigène, mutagène et reprotoxique. Il faut savoir que suite à ces expositions, on a un suivi médical. Et que ce soit n'importe quel salarié qui était exposé, la veille de passer ses examens, je peux vous dire qu'on passe une nuit... On va dire qu'on passe une sale nuit parce qu'on va se dire, est-ce qu'on va me trouver quelque chose ? Est-ce qu'on va me trouver quelque chose au rein ? Est-ce qu'on va...
Et le combat contre le chloracétal C5, il est encore actuel aujourd'hui, en 2010. Au bout de 29 ans, il est toujours présent, le danger ?
Il y a toujours des salariés qui sont exposés au chloracétal C5, oui.
Avec la précipitation, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais il faut laisser le temps aux gens de pouvoir faire le travail correctement. Ça, c'est un des facteurs importants.
Quand Jean-Luc parle de précipitation, c'est qu'on a subi deux plans sociaux sur le site en 2004-2005 et le deuxième 2007-2008. On a perdu plus de 200 postes et les conditions de travail se sont aggravées. On travaille de plus en plus dans l'urgence. On travaille à plus de 100% de nos capacités, on va dire.
Et travailler plus vite, ça veut dire qu'à un moment, vous pouvez oublier de mettre vos gants ? Ou votre masque ?
Exactement.
Et le nouveau médecin du travail, il vous aide justement sur ces questions-là ?
Ça... Ouais. On ne veut même pas en parler. Alors là, vous pouvez le mettre qu'on ne veut pas en parler. Voilà.
Notre silence veut dire beaucoup de choses.
Rouage banal, disais-je, mais il y a des gens plus ou moins courageux dans toutes ces histoires. Heureusement, quand même... Car un peu de vérité, un peu de justice on finit par émerger dans cette histoire, même si, en se tournant vers l'INVS, l'Institut National de Veille Sanitaire, il faut quand même observer que cet institut a été saisi par les ministères de la Santé et du Travail en janvier 2003, pour explorer un possible excès de cas de cancer dans une usine chimique de l'Allier à Tisséau. L'INVS est donné 6 mois pour vérifier le lien entre les cancers du rein et la molécule C5. Et l'étude a finalement pris 7 ans. 7 ans. Et c'est tout récemment, en décembre 2010, qu'enfin l'INVS a conclu l'étude épidémiologique, met en évidence les liens entre C5 et cancer, et montre qu'il y a 13 fois plus de cancers du rein dans l'entreprise que dans la population en général. Rencontre avec Hélène Imbermont.
Donc, je m'appelle Hélène Imbermont, je suis médecin épidémiologiste et je travaille à l'Institut de Veille Sanitaire au département Santé-Travail que j'ai l'honneur de diriger. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons été saisis par les ministères du Travail et de la Santé début 2003. Suite à une alerte qu'ils avaient eue sur un excès de cancer du rein qui aurait été observé dans cette entreprise, et ils ont souhaité que l'Institut de Veille Sanitaire fasse une investigation.
Donc ça, c'était il y a 7 ans. 7 ans, vous avez commencé des investigations pour connaître la cause de cet excès de cancer du rein. Et cette année, il y a peu de temps, vous venez de conclure.
Voilà.
Et quelles sont les conclusions définitives de ce rapport ?
Donc voilà, les investigations montrent effectivement qu'il y a un lien entre un produit qui s'appelle le chloracétal C5 et associé à cet excès de cancer du rein. Voilà.
Alors, dans une situation comme ça, qu'est-ce que conseille l'Institut de Veille Sanitaire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, nous, ce qu'on a écrit dans ce rapport, c'est que il est possible qu'il y ait quand même une décision à prendre quant au classement. Parce que vous savez qu'il y a les produits repérés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont classés en ce qu'on appelle CMR. Hein, et que lorsqu'il y a des CMR, ça entraîne certaines obligations pour l'entreprise. Bon. Pour le moment, le C5 n'est pas classé CMR, mais...
Cancérogène, mutagène, ouais. Reprotoxique.
peut-être serait-il possible d'envisager ce classement. Ça, je ne sais pas.
Bah, c'est peut-être justement à l'INVS de demander ce classement.
Oui, voilà. Et ça va prendre du temps. Hein. Ça ne se fait pas en 5 minutes.
Mais ce qui paraît fou dans cette histoire, c'est que en 90, sous la pression des salariés, l'entreprise teste enfin le C5 qu'elle leur fait utiliser et montre que ce C5 est mutagène. Il fait éclater les noyaux des cellules en petits morceaux. L'entreprise continue à utiliser le C5 avec assez peu de protection pour les salariés. Et quand l'INVS commence à faire une étude épidémiologique qui prend 7 ans, donc ça veut dire que ça fait 20 ans que tout le monde sait à peu près sur le terrain ce qui se passe, on attend cette conclusion depuis 7 ans et après 7 ans, on nous dit que ça va prendre très longtemps pour prendre une décision.
Oui, mais alors qu'est-ce que vous voulez me dire? Que je ne sers à rien? Que je ne sers à rien ou que je cache des choses? Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire.
Bah justement, j'aimerais bien comprendre moi aussi à quoi vous servez.
Moi, si vous considérez que ça ne sert à rien d'améliorer la connaissance, bon, moi j'informe le ministre du Travail, les salariés de l'entreprise, la direction de l'entreprise, et c'est ça mon rôle. Mon rôle, ça n'est pas de décider à la place de ceux qui doivent décider. Voilà. Parce qu'il y a d'autres enjeux, il faut bien en avoir conscience. Bah, les enjeux face à l'emploi, face à... Voilà, il y a des enjeux économiques. Hein. Donc, voilà. Si vous voulez, je vous dise.
Et oui, les revoilà, ces enjeux. L'emploi, les enjeux économiques, vous voyez bien ce qu'on veut dire. Voilà, c'est vague, c'est flou, mais enfin, c'est là. C'est là et ça crée cette régression, ce grand bond en arrière, au ralenti, que nous sommes en train de vivre. Rencontre à nouveau avec Jean-Paul Tessonnière, avocat des victimes.
Concernant Adiceo, donc, l'affaire d'Adiceo, selon vous, c'est une exception dans le monde de la chimie?
Non, ça n'est pas une exception. C'est là que je crois que c'est ce qu'il faut souligner. On considère qu'actuellement, plus de 90% des maladies professionnelles et des cancers professionnels ne sont pas reconnus. La caractéristique des risques modernes en matière de maladies professionnelles, ce sont des risques différés dans le temps. Le risque classique au XIXe siècle, c'est l'accident du travail, qui crée une sorte d'unité de temps et de lieu. Prenons le cas d'AZF, une explosion, on relève les morts sur place. Il est relativement facile de constater que les morts sont morts à cause de l'explosion qui vient d'avoir lieu. Ça, c'est l'accident. C'est un petit peu la figure classique du risque industriel. Aujourd'hui, pour l'essentiel, le risque industriel, en particulier dans la chimie, n'est pas le risque d'accident. Il est le risque de contamination, d'intoxication. Il est, pour ceux qui sont exposés à la radioactivité, le risque lié au rayonnement ionisant. La caractéristique de ce risque, c'est qu'il est d'une part invisible, d'autre part, il produit des effets différés dans le temps. 10, 20, 30, 40, 50 ans après l'exposition au risque, la maladie apparaît. Et ces maladies, dans la plupart des cas, ne sont pas des maladies spécifiques. C'est-à-dire que les gens qui les déclarent parfois très longtemps après avoir été exposés à ce risque, après avoir changé leur employeur, après être partis à la retraite, eh bien ne font pas le lien entre le cancer qu'ils développent et l'exposition au risque auquel ils étaient soumis 30 ans auparavant. Et donc il y a une très grande difficulté à appréhender les conséquences de ces expositions. Ça a été un des enjeux de la bataille de l'amiante, mais le problème qui a été résolu, plutôt dans l'intérêt des victimes, à l'occasion du scandale considérable qu'a été l'affaire de l'amiante, 100 000 morts en 30 ans tout de même, c'est une catastrophe dont l'ordre de grandeur est Hiroshima, est beaucoup plus difficile à faire avancer sur les autres types de risques professionnels, en particulier sur le risque chimique et globalement ce qu'on appelle le risque cancérogène. Là, pour l'instant, je suis obligé de constater qu'on est toujours dans cette situation dans laquelle la plupart des victimes ne sont ni reconnues ni indemnisées.
Si j'ai bien compris, Adiceo, c'est finalement une affaire entre guillemets banale dans le monde de la chimie, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers d'ouvriers qui sont exposés à des cancérogènes et ça reste invisible. Et en même temps, j'ai l'impression quand même que cette histoire, elle est exceptionnelle.
Oui, je crois qu'il y a un aspect exemplaire dans la bataille menée par les salariés d'Adiceo. Là, il se trouve qu'il y avait un médecin du travail remarquable qui a su appuyer les démarches des salariés, et un comité d'hygiène et de sécurité qui a joué son rôle, appuyé ensuite par un toxicologue. C'était donc l'intervention d'Henri Pezra qui a permis de faire émerger le problème. Donc les acteurs du côté des salariés ont su se mobiliser pour faire éclater la vérité. L'affaire n'est pas terminée, mais d'ores et déjà, on doit considérer qu'Adiceo, c'est sans doute un succès en termes de santé publique et de santé au travail. Et c'est un succès parce que, dans la plupart des cas, ce qui se passe chez Adiceo, c'est-à-dire la maladie et la mort, eh bien, se passe dans l'obscurité, dans l'ignorance et sans aucune réaction. Au moins, dans l'affaire Adiceo, la société a-t-elle été condamnée pour faute inexcusable ? Les salariés ont-ils été indemnisés des conséquences de leur maladie, etc. Simplement, il faut, bien entendu, se saisir de cet exemple, à la fois pour montrer la réalité des dangers auxquels sont exposés les salariés, mais également pour demander aux salariés exposés de savoir se mobiliser et de faire ce qui a été fait chez Adiceo.
Merci à toutes et à tous. C'était un reportage d'Inès Leroux. Merci aux salariés d'Adiceo, à Jean-Paul Tessonnière, Annie Thébault-Moni. Merci Josette Rouder et Michel Falsi de l'INRS. Merci. Un conseil de la Basse, j'y suis, la nouvelle revue vivante. C'est ce soir à 20h à la Java, 105 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris, menée entre autres par l'Orchestre National de Jazz, qui nous avait accompagnés lors de la dernière émission avec le Monde Diplomatique. Donc 20h ce soir, la Java 105 rue du Faubourg du Temple. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter. À la rubrique émission de la Basse, j'y suis. Technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Yann Bouillot, Koye Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebotte et Marina Touillez. Attend vos messages au répondeur de la Basse, j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 40 37 01 56 40 37 37 réclame.
Avec la GMF,
Alex est serein. Il a choisi Autopass, l'assurance auto
de la GMF,
qui lui fait faire 10% d'économie quand il roule peu. Alors oui, Alex chante un peu faux, mais il est enfin serein.
Grâce à la GMF.
Il peut donc penser à autre chose qu'à son assurance auto. Ce qui est humain après tout.
GMF, assurément humain.
Et avant le 31 janvier, la GMF vous offre les deux premiers mois de votre assurance auto. Conditions au 0970 809 809 ou sur gmf.fr.
Voilà, pour nos émissions à venir, nous recherchons des témoignages sur ce qui se passe actuellement en Tunisie. Si vous avez des tuyaux, si vous avez des amis là-bas, si vous nous écoutez là-bas, ce qui est bien improbable, on ne sait jamais, vous avez le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. À demain, 15h, pour là-bas, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Dominique Delaroy. Salut!
Les deux otages du Niger exécutés ce week-end, la France et le Mali pointent du doigt Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il y a des preuves irréfutables. C'est ACMI qui a fait le coup, affirme un responsable sécuritaire malien. Pour François Fillon, la France est quasiment sûre que la mouvance est derrière l'enlèvement. L'assaut final a eu lieu au Mali et a été l'œuvre des seules forces françaises, après accord préalable de Bamako, a expliqué le Premier ministre. Les otages, selon lui, ont été éliminés froidement par leurs ravisseurs. Des policiers antiterroristes français ont été envoyés ce week-end au Niger pour prendre part à l'enquête. Alain Juppé, le ministre de la Défense, est attendu dans l'après-midi à Niamey. Le référendum sur l'indépendance se poursuit au Sud-Soudan, deuxième jour de vote. En une seule journée hier, le taux de participation a atteint les 20%. Pour que le résultat du vote soit validé, le taux doit être d'au moins 60% au 15 janvier. Ce scrutin historique fait partie de l'accord de paix conclu en 2005 entre le Nord et le Sud, accord qui a mis fin à une guerre civile de plus de 20 ans et fait 2 millions de morts. Le groupe de construction navale STX Europe vient de décrocher la commande d'un paquebot de luxe, un navire baptisé Europa 2, qui sera construit dans ces chantiers français de Saint-Nazaire. Le contrat représente environ 2,5 millions d'heures de travail, début des travaux en septembre prochain et véritable bouffée d'oxygène pour les ex-chantiers de l'Atlantique. Un policier de 34 ans a mis fin à ses jours ce matin au commissariat central de Strasbourg, vraisemblablement avec son arme de service. Les raisons de son geste semblent être être d'ordre personnel et familial. Un drame familial également ce matin à Rousset, un village proche d'Aix-en-Provence. Un homme a abattu sa femme avec qui il était en instance de séparation devant la gendarmerie. Il a été interpellé peu après. Depuis jeudi, ils étaient bloqués à 4300 mètres d'altitude dans le massif du Mont-Blanc en raison du mauvais temps. En début d'après-midi, ces trois alpinistes ukrainiens aguerris ont pu enfin être secourus. Ils ont résisté en froid entre moins 10 et moins 15 degrés en creusant un trou protégé par un mur de neige afin d'abriter leur tente.
Tous les jours.
Ça fait longtemps qu'on n'était pas à l'antenne, on se rattrape.
À partir de 11h.
Le fou
ouais.
Du roi.
Stéphane Bern.
Ce qu'on adore, c'est cet enthousiasme à poser des questions.
Pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 106 avec Marc Lavoine et Christine Orban, rendez-vous demain mardi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Pardon, d'autres questions ?
Le Fou du Roi, Stéphane Bern.
Eh ben oui, oui, oui.
Tous les jours sur France Inter à partir de 11h. France Inter. La différence.
Il est 16h04, tout de suite le carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Dominique.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, je rappelle un concert très important pour les Parisiens ou ceux qui habitent pas loin. Mercredi, Haïti, un an déjà, un concert à l'église Saint-Louis en Lille, 19 bis rue Saint-Louis en Lille, avec plein d'artistes. Donc au profit évidemment des malheureux, de tous ceux qui ont besoin de quelque chose à Haïti. Et je rappelle que la participation individuelle est à partir de 30 euros, ce qui peut paraître beaucoup au départ, mais qu'on peut déduire en partie de ses impôts, 75%. Je lis le texte, à la limite de 513 euros. Donc on peut donner plus, évidemment, hein, si on peut, un concert avec plein d'artistes, Amos Coulanges, Daniel Weyenberg, Jean-Philippe Collard, Bruno Rigouteau, Guy Touvron, Laurent Corsia, Dominique de Villancourt, Yann Aboukoff, Emmanuel Rosfelder, Patrick Messina, Ariane Jacob, et c'est moi-même qui présenterai, je peux le dire, puisque c'est une œuvre, je le répète. Donc rendez-vous mercredi 12 janvier à 20h45 en l'église Saint-Louis en Lille. D'autre part, nous avons reçu un coffret, les 50 ans de Salzbourg, le festival de Salzbourg. Alors je ne sais plus comment il faut prononcer maintenant, parce que un auditeur fort érudit m'a fait remarquer que je disais Beethoven et que je mangeais un peu la fin du Beethoven qu'il faudrait dire. Mais je dois dire que quand on parle français, c'est difficile d'intégrer des mots allemands avec leur prononciation exacte, parce que sinon il faudrait dire j'aime le gentil Schubert ou bien le Johann Sebastian Bach. Donc on fait un compromis. Alors Salzbourg, je le dis une fois, et puis je continue à la française avec Salzbourg, puisqu'un autre auditeur me concède qu'on peut franciser un peu certains noms qui, après tout, appartiennent à toute l'Europe maintenant, qui ont été adoptés. Voici, pour commencer, enregistré au Festival de Salzbourg, en 1966, un extrait de la 40e symphonie de Mozart, Allegro assai, dirigé par le très germanique, lui, Karl Böhm.